Time Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport tous les jours de 20h à 21h avec Bilal Nelman sur Beurre FM.
Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. On se lundi 29 avril 2024. On est ensemble à la suite des informés. Début de semaine oblige pour tout le monde. On espère en tout cas voilà, que vous êtes bien à l'écoute, cramponnés sur Beurre FM, votre radio préférée. Chers auditrices et auditeurs, au programme de cette émission, sur l'audition, on va parler de quoi ? De Marseille, ça passe face à, au sang et or, face à Lens justement du côté de l'Orange Vélodrome, Lyon qui croque son dauphin, et oui, qui croque l'AS Monaco, eh ben oui, Ben Yedder qui s'est fait mordu par les Lyonnais, on va pas l'oublier cela, et aussi le Paris Saint-Germain, nul avant Dortmund, un match nul face au HAC, le doyen du football français, le 0153483000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. D'ailleurs, le débat du jour, on part dans cette fameuse ligne droite concernant les soirées européennes avec la Champions League, l'Europa League et la Coupe Conférence aussi. Enrique serein face à Dortmund avec son équipe championne de France. C'est la question que l'on s'est posée avec toute l'équipe de Time Sport, le 0153483000, sans oublier aussi sur les réseaux sociaux où vous pouvez réagir et nous, on se fera un plaisir de vous faire passer sur l'antenne le petit message, la petite réaction. Allez, c'est parti, Google Time Sport.
Time Sport. Les pourparlers.
Allez, ce soir, on accueille Augustin avec nous. Bonsoir, Augustin.
Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous.
Comment ça va, Augustin ?
Très, très bien.
Tranquillement, Augustin ?
Tranquillement.
Oui.
Tranquillement, ravi d'être là avec une équipe sympa.
Eh ben, nous aussi.
Pendant une heure.
Eh ben voilà, tout bon, sympa.
Voilà.
C'est Moha qui est avec nous. Bonsoir Moha, comment
bonsoir,
ça va?
Ça va très bien, Willou. Bonsoir à toi, bonsoir à toute l'équipe et à tous nos auditeurs et auditrices. Très heureux de commencer la semaine ici.
Eh ben nous aussi, avec Grégory, allez, qui nous revient dans la capitale.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Grégory.
Un vrai plaisir d'être ici. Je commence à être lasse des interventions téléphoniques. Et ouais, je préférais revoir toute c'est la vrai. Team en direct. C'est tellement plus agréable. Ça fait vraiment plaisir.
Eh ben nous aussi, ça nous fait vraiment plaisir, tout comme Jouba qu'on retrouve. Bonsoir Jouba,
bonsoir,
comment ça va Jouba ?
Bonsoir à tous, bonsoir Bilal, bonsoir Solal que tu vas présenter. Bonsoir toute l'équipe, Augustin, Moha et puis Grégory. Je suis très content d'être avec vous. Lundi, c'est parti j'ai envie de dire.
Ouais, c'est parti justement. Alors on va voir le petit bonsoir de notre réalisateur Solal. Bonsoir Solal, comment ça va ?
Buonasera a tutti, j'espère que vous allez bien. Écoute, ça va pépère et toi Bilal ?
Ça va très très bien, on va parler rapidement du football féminin Solal. Peut-être un mot avant ? Ouais.
Bah c'est historique, historique. Le PSG au pluriel qui est en Ligue des Champions, parce qu'il y a les femmes qui sont aussi qualifiées pour ces demi dont on va parler.
Ah bah,
justement. Je pense que HD serait fait un plaisir d'être là dans les studios.
Bah, HD, mais il est parti
il
du côté.
Voilà, avec sa tête.
Il a suivi ce match-là. HD voilà. Il a non. C'est les Lyonnais justement. Bon toi tu vas te rendormir et tu vas revenir dès demain. Oui oui tu suis tout c'est ça.
Je suis
tu suis tout. Ouais. Ah ben tu suis tout. En tout cas peut-être as suivi les manifestations dans le en plein cœur de Paris.
Non, c'est ça, non c'est avec Adil Farkan.
Ah, avec Adil Farkan, c'est bien, il retourne.
C'est les avant,
bien sûr,
c'est
bien
l'heure
sûr.
D'avance, tu vois.
Comme on disait dans le sud de la France, trompette.
Voilà.
Ah ben oui, qu'est-ce qu'il y a
que de l'amour,
journaliste,
ouais.
Que de l'amour, pas de la haine.
Voilà.
Les Lyonnaises, oui, Solal, les Lyonnaises, justement, ont rappelé qu'elles étaient une équipe référence. Quelle référence sur la scène européenne. Justement, en demi-finale de la Champions League, les joueuses de l'Olympique Lyonnais ont éliminé le Paris Saint-Germain. Duel devenu presque un classique, notamment dans ce championnat qui est le championnat de France, hein, féminin. 3-2 à l'aller, après avoir été mené 2-0, Moha par le Paris Saint-Germain. Une victoire confirmée ce dimanche au Parc des Princes, où justement HD y était, avec un succès 2-1 pour Lyon, après des buts de Selma Bacha et aussi de l'international haïtienne Melchie Dumornay. Ça voilà, c'est concernant ce match-là. Les Lyonnaises donc s'apprêtent à disputer leur 11e finale européenne. Ouais, rien que ça.
Fou, hein.
Alors qu'elles comptent déjà 8 titres en Champions League, en finale, elles rencontreront le FC Barcelone, tenant du titre et qui est allé aussi chercher sa qualification samedi sur la pelouse de Chelsea du côté de Stamford Bridge. Voilà, capitaine emblématique de l'Olympique Lyonnais, Wendy Renard a livré justement ses impressions après cette qualification de son équipe.
Maintenant, on a fait preuve de caractère parce que c'était mal embarqué après deux buts encaissés alors qu'on est très, on était très bien rentrés dans la rencontre. Devant nos supporters, on se devait de réagir. C'est ce qu'on a fait. On a été chercher ce but et je pense que mentalement, ça fait mal. Quand tu mènes 2-0 et que tu perds 3-2 à la fin, quoi qu'on en dise, ça fait mal. Donc après, on a corrigé certaines choses chez nous pour le match retour. On savait leur point fort. Et on a fait preuve beaucoup de rigueur, de concentration, de communication. Et on a très peu concédé d'occasions. Et nous, en l'occurrence, on en a eu beaucoup. Et forcément, quand tu n'es pas efficace, tu laisses cette équipe du Paris Saint-Germain espérer. Et tu n'es pas à l'abri jusqu'à la fin. Donc après, le but de Messi nous fait du bien. Et je pense qu'après ça, c'est la libération. On a en finale de Ligue des Champions, une très belle équipe en face. Même si on a gagné déjà cette Ligue des Champions 8 fois. Et c'est pas parce qu'on l'a gagné 8 fois que ça y est, on rentre sur le terrain et on l'aura. Donc les efforts, il faudra les faire. Il faudra respecter cet adversaire qui a énormément de qualité. Mais nous aussi, on en a. Donc on va jouer comme on sait le faire. Et comme j'ai dit, on aura le temps de préparer ce match. On va déjà savourer aujourd'hui. Et puis Barcelone viendra le jour où ça viendra. Au match aller, on a fait preuve de caractère.
Alors messieurs, justement, cette finale se déroulera donc le 25 mai prochain au stade San Mamés de Bilbao. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà parler d'un match au sommet avec cette affiche entre le Barcelone et aussi l'Olympique Lyonnais, Moha?
Bien sûr qu'on parle d'un match au sommet, surtout que les deux représentants des deux pays respectifs se sont déjà croisés. On sort d'une victoire de l'Espagne en Ligue des Nations face à la France, où les Espagnols nous ont clairement montré qu'il y avait un univers d'écart entre leur football et le nôtre. Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'OL est l'équipe la plus titrée en Ligue des Champions féminine, et de très loin d'ailleurs, suivie juste par Wolfsburg. Surtout que les Lyonnaises, là où franchement elles me rassurent un peu, c'est qu'elles sont sorties d'une espèce de guerre avec le Paris Saint-Germain, parce que fallait voir le match, hein, c'était une bataille. Il y a eu de la bagarre d'ailleurs, ouais, avec Khadija Toudiani. Mais franchement, c'est vrai qu'il y avait pas match entre le PSG et l'OL. On a vu une équipe trop à l'aise techniquement en face. Les Lyonnaises avaient beaucoup trop d'expérience. De l'autre côté, il y a le X-Factor, je dirais, la Ballon d'Or, Aitana Bonmati, qui est sur un nuage en ce moment.
Ouais.
Qui a franchement marché sur Chelsea. Chelsea, c'est une très très bonne équipe d'ailleurs. Mais Aitana Bonmati, ouais, sportive de l'année en plus. Franchement, elle est étincelante. Je la vois pas du tout avoir de la difficulté face au milieu de terrain lyonnais. Après, il y a du haut niveau. Wendy Renard a beaucoup plus d'expérience que cette dernière, mais bon, franchement, quand tu vois de la grâce, ouais, dans laquelle elle est,
expérience quand même qui va parler.
Ouais, je sais bien, mais la grâce dans laquelle Aitana Bonmati est, c'est,
attention,
elle a l'air intouchable en ce moment. Du coup, oui, ça sera un choc au sommet, forcément.
Ouais. Ouais. Peut-être Augustin, une réaction avant de retrouver Marseille.
Avec ce que dis moi.
Ouais.
alors j'ai pas trop
d'accord.
trop suivi.
Non,
hein,
pas trop suivi.
Hein.
Bon, en tout cas,
Lyonnaise, bravo.
Ouais.
Et puis j'espère qu'elles vont gagner.
On espère
qu'elles vont
les
jouer
pour le football français.
Voilà, pour le football,
c'est bien,
voilà,
pour le français.
Ouais, chez les filles.
Et d'ailleurs, je tiens juste à dire un
alors
truc. Ça prouve qu'on est sur un très bon média, parce que Génie Le Sommaire s'est plaint en fait de la couverture médiatique de la demi-finale de Ligue des Champions. Un match qui n'a pas du tout été traité par le reste des médias.
Bien sûr.
Ce que je trouve déplorable aussi, parce que quand même,
c'est
t'as deux clubs français en demi-finale.
À l'approche des JO aussi.
Ça t'assure que t'as un club français en finale de Ligue,
ouais,
des Champions.
Mais non.
Et personne ne le couvre.
Ça passe à la trappe.
Mais non, on est à Beurre FM ici, on n'est,
ouais,
pas.
Bah, il faut les taguer en fait.
Ah bah justement.
Et les personnes là.
Ouais. Ouais.
Venez écouter,
ouais,
Beurre FM, on parle du football féminin.
Ouais, c'est vrai. Et on l'a déjà eu, Wendy, voilà, sur l'antenne de Beurre FM.
Bah,
on en a eu des interventions
soulignées
françaises. Non, non, mais vraiment. Vraiment, très sérieux.
Tant mieux.
Ouais, justement, on avait même accueilli le champion du monde de Tonde. Voilà.
De
Tonde. De la Tonde, tu sais,
ah,
de moutons, de chèvres.
Ouais.
Ouais, lors du salon de l'agriculture à Paris. Et c'est super sympa.
Très intéressant.
Ouais, on, ouais, peut s'enorgueillir de le dire quand
même. Évidemment.
Ouais, bien sûr, voilà.
Il faut.
Tu vois,
basket, football, de tout, quoi.
Escrime.
Eh ben oui, de tout.
Espérons que les Lyonnaises tondent.
C'est ça. Ouais. Non, on va voir. On va voir avec les Lyonnaises, justement. C'est l'Olympique de Marseille qu'on retrouve, Grégory. Marseille, bon, ça va. Ça l'a fait face au sang et or. Marseille, ouais, ça va. Jouba, il est pas trop d'accord, peut-être.
Bon,
les
hommes
de Gasset.
Attends, on parle de l'OM, on parle d'une équipe qui galère, qui s'en sort, voilà, face à Lens. Ils doivent tuer le match beaucoup plus vite. Ils doivent se rassurer beaucoup plus que 2-1, même s'il y a heureusement toujours ce mec-là impressionnant qui est Aubameyang, qui est toujours là pour l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'ils sont en demi-finale d'Europa League, mais la Ligue 1, excuse-moi, c'est catastrophique. L'OM.
Et pourquoi catastrophique
l'OM,
la Ligue 1 est représentée en Europe.
L'OM,
pourquoi catastrophique
tout,
vas-y, ils ont, attends, Juba, ils ont joué.
Alors,
ils ont
joué. Putain, je finis.
Ouais, et là, il va finir.
L'OM, avec les moyens qu'ils ont, avec le staff qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, ils doivent pas se contenter d'une huitième, d'une septième, d'une sixième. Non, ils doivent être sur le podium et large, en fait. Quand tu t'appelles l'Olympique de Marseille, quand t'as ce budget-là, quand t'as ces ambitions qui ont été les ambitions de Franck McCourt, attends, ça va. Non, mais alors, attends.
Est-ce que je peux dire que si les moyens, permettaient d'être en haut du tableau, le PSG aurait déjà au moins 5 ligues de champions.
Oui, voilà, c'est sûr. Ouais. Mais c'est sûr.
Mais après
ils jouent tous les trois jours.
Ouais, là ça joue beaucoup.
C'est sûr qu'ils sont éreintés, qu'ils sont sur la gomme depuis déjà 2-3 mois. Ils assurent l'essentiel. Ils ont assuré, mais ils n'ont pas forcément rassuré pour la suite en Ligue Europa. Après, l'Atalanta, c'est vrai que quand on regarde l'Atalanta jouer, ils sont quand même un cran au-dessus. On a l'impression qu'ils sont pas éreintés. Eux,
cette saison,
contrairement à Marseille,
c'est pas fou. Hein. Voilà. C'est pour ça qu'on y croit, en fait.
Mais c'est pour ça que je pense qu'on a des raisons d'y croire, parce que Marseille a su un peu faire à la surprise générale, gagner contre des clubs en Ligue Europa dont on les attendait pas. C'est un club au mental, là, actuellement. Ils gagnent grâce au mental. Il faut souligner ça. Ils ont la moitié de l'effectif blessé ou suspendu ou que sais-je. Ils ont un staff médical dont je pense qu'il va falloir aussi se poser la question de sa pertinence, qui reste.
C'est un excellent sujet, mais oui. On met beaucoup la pression sur les toubibs quand les joueurs se blessent ou ce genre de choses. Oui. Mais la vérité, la plupart des toubibs, quand tu discutes avec eux en interne, ils te disent tous, ça tiendrait qu'à moi, le joueur il rentre pas maintenant, j'attends encore une semaine, j'attends encore 10 jours. Mais j'ai la pression du directeur sportif, j'ai la pression de l'entraîneur, on veut qu'il revienne tout de suite alors qu'il n'est pas prêt. Et c'est pour ça qu'on a systématiquement des rechutes.
C'est pour ça que Rongier devait revenir en janvier.
Mais ça, c'est
bien
la profondeur de banc.
C'était l'un des premiers sujets qu'on avait traité sur Time Sport. Grégory, les instances de football qui foutent 500 000 compétitions en plus et qui en fait font déjà juste sur l'organisation de la CAN. L'avoir mis à ce moment-là de la saison, ça avait amputé Marseille de 8 joueurs.
Au Maroc, elle sera en été.
Marseille de 8 joueurs dès le début de la saison. Et on a vu les conséquences que ça a eu directement.
Alors, pardon, le recrutement, tu le fais pas.
Longoria,
il en a déjà des gens qui sont CAN compatibles, beaucoup.
C'est vrai.
Donc à un moment donné, c'est à toi de réfléchir. Gouverner, c'est prévoir.
Le truc, c'est qu'on avait vu, on avait déjà eu ce débat-là. Et les joueurs africains qui ont été achetés par Marseille à ce moment-là, en fait, c'est des joueurs qui étaient achetés il y a bien avant la CAN. Et la CAN rentrait pas encore dans cette prérogative
de la CAN depuis longtemps.
Oui, mais la CAN c'était pas forcément en hiver systématiquement à cette époque-là.
Certains joueurs ont été en hiver.
Certains joueurs africains qui jouent à Marseille sont même issus du centre de formation. Du coup, tu veux pas les virer du centre de formation juste parce qu'ils jouent la CAN avec leur pays respectif.
Mais enfin, il y a un problème de compétitivité en France. Et là, je parle au niveau fiscal qui crée en réalité, à mes yeux, toute cette problématique-là. On a les moyens d'avoir un certain nombre de bons joueurs. Mais ça nous retire tout moyen d'avoir de la profondeur de banc, contrairement aux Espagnols, contrairement aux Anglais, voire même aux Allemands. Donc t'as un certain budget, tu concentres sur les 11 joueurs et encore sur 5 joueurs vraiment, tu peux pas avoir derrière un banc avec des garçons qui sont à chercher.
Mais alors, si on enlève les blessés, les suspendus et tout ça, à Marseille, il y a une profondeur de bon quand même, mine de rien.
Ils sont renforcés l'été dernier.
Il faut pas leur dénier ça. Ils se sont renforcés quantitativement. Après, encore une fois, je le dis depuis longtemps ici, Marseille en recrutement, c'est un hall de gare. Il y a des départs, des arrivées. Le bilan est très négatif sur ce que ça a généré les transferts et ce qu'ils ont vendu et malheureusement et ce qu'ils ont acheté et encore une fois Longoria c'est Football Manager quoi.
Moi je l'ai beaucoup critiqué sur cette gestion et surtout quand tu vois un mec comme Aubameyang, moi je comprenais pas du tout le fait de l'avoir signé pour 3 saisons alors qu'il est pour moi en fin de carrière et aujourd'hui le bilan comptable d'Aubameyang il est meilleur que celui d'Alexis Sanchez, ce que je trouve surprenant personnellement.
Dans le jeu, mais enfin Aubameyang c'est un leader, il a toujours été très très bon.
Je trouve ça impressionnant.
Pendant 3 mois à Marseille au mois de septembre, octobre, novembre, où il a été décrié, on cherchait Marseille.
Et les gens comprenaient pas à ce moment-là le départ de Sanchez en fait quand tu voyais ça.
Après Sanchez, on a vu quand même quel gâchis à l'Inter de Milan. Il a joué 3 minutes 50.
concurrence est plus rude quand même.
La concurrence, mais
c'est autre chose.
Mais
autre chose, c'est un autre level.
Pour quelqu'un d'Alexis Sanchez, je pense qu'il aurait mérité de rester à Marseille. Et lui-même, je pense qu'à posteriori.
Bref, en tout cas, l'OM, il y a un gros projet de définition. Il y a un gros problème, pardon, de définition du projet. On ne sait plus où va cette direction. Visiblement, McCourt, et on l'a vu à la suite de la crise qui avait été celle de l'OM lors du départ de Marcelino, parce que Longoria voulait partir. McCourt lui a complètement laissé les rênes et on voit les résultats. C'est-à-dire
il
que
est obligé de laisser les rênes. McCourt, il s'y connaît pas en foot.
Attends, d'année en année, c'est la décrépitude. Enfin, je veux dire,
Tu disais en 10 ans, 5 fois deuxième de Ligue 1.
L'OM n'a pas gagné le titre depuis 2010. Depuis 2010.
Finaliste du Coupe de l'UFA en 2018. Et puis demi-finaliste à minima de la Coupe de l'UFA. Juba,
Augustin, tu te mens à toi-même.
On va réussir à le mettre d'accord.
Ok, on va marquer d'une courte pause.
Le dernier titre, il est en 2010.
Merci Augustin, on s'entend pas. Merci, allez, une courte pause, on y va.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Allez, de retour pour la seconde partie de cette émission avec toute l'équipe de Time Sport pour m'accompagner jusqu'à 21h en ce lundi 29 avril. Allez, place au second gros dossier, excusez-moi.
Time Sport, la parole des sociaux.
On se moquait de Lyon, moi. Eh oui. Beaucoup se sont moqués, notamment m'ont balancé des choses pas très très bien à l'antenne, hein, vraiment. Ouais, des gens de l'équipe de l'émission. Et pourtant j'avais dit qu'ils allaient dépasser Marseille avec Boula. On pense à Boula ce soir, il nous écoute, il a pas pu se joindre à nous. Et pourtant Lyon est bien là, première partie de tableau, 3-2 face au dauphin du championnat de France, qui est l'AS Monaco. On t'écoute.
L'AS Monaco qui était même pas dans le dur, hein, selon ce que j'ai entendu, certains étaient en train de réduire un peu, de minimiser la victoire de l'OL, ce qui est pas du tout le cas. Après la déconvenue face à Paris, entre la victoire face à Brest et la victoire face à Monaco, la déconvenue face à Paris était un peu prévisible, et comme l'a dit Lacazette, ça n'a pas du tout réduit les espoirs ou la détermination des Lyonnais qui ont pris ça après la victoire de Brest. Il a dit ça va juste nous permettre de remettre les pieds sur terre un peu, et ça a complètement marché. Faire preuve d'autant de pragmatisme de la part de l'attaque lyonnaise, je trouve ça impressionnant malgré l'âge de certains. J'ai rien contre ça, mais à un moment, enfin, Lacazette, il fait une passe en profondeur lunaire, franchement digne de Xavi, et il casse deux lignes de jeu. Et tu te dis, mais c'est fou, le mec, il était aux oubliettes à Arsenal. Et il revient, et il est de son club.
C'est l'âme d'un leader.
Et tu vois cette connexion. Et tu sais, adore, quoi. T'as Sage qui est là, en fait, qui a ce lien avec la base lyonnaise. Mmh. Et t'as tous ces cadres-là qui tiennent. Franchement, l'apport de Matic aussi au milieu de terrain, faut le dire, c'est du taf quand même.
C'est
franchement, les Lyonnais, c'est impressionnant.
On a un milieu de terrain qui est intelligent, c'est surtout ça. C'est leur grosse force à Lyon. On a un milieu de terrain, et tu parles par exemple de Lacazette, c'est pas ça, c'est typiquement un joueur qui a de la vision, qui a de l'intelligence dans le jeu.
Et il monte les gens
vers le haut.
C'est
aussi un joueur de la vitesse. Ça repose sur la manierie, sur l'œil, sur l'expérience.
Tu parlais d'âge, il a 32 ans, Lacazette.
Il y a de tout ça, c'est sûr. Il y a un vrai apport Pierre Sage, etc. à Lyon. C'est sûr, ils ont fait aussi une belle performance. Il y a vraiment une dynamique. Attention quand même, parce que Monaco, qui est deuxième du championnat, rappelons-le, s'écroule, quoi. Ne répond pas aux objectifs qu'a un deuxième. Non, il s'écroule. Moi, je suis désolé. Quand on est deuxième du championnat, on se doit de gagner.
T'as le droit de perdre parce qu'aujourd'hui,
il n'y a plus aucun sens dans cette Ligue 1. C'est-à-dire que tout le monde bat tout le monde perd. Il n'y a plus aucun sens.
Heureusement que Paris n'a pas perdu contre Le Havre. J'aurais aimé avoir sa réaction.
Paris, Le Havre aussi, c'est bah, après Paris a relâché
parce que
il y a aussi cette Paris Le Havre, il y a aussi cette échéance en Ligue des Champions, mais je veux dire Monaco quoi, il faut pas qu'ils ils peuvent pas se permettre, ils sont deuxième de championnat. Normalement, tu dois mettre une distance par rapport à ces équipes là. Avant
Lyon,
moi je me rappelle quand on avait une bonne Ligue 1, quand on avait une bonne Ligue 1, le deuxième ne perdait
pas.
Attends, le deuxième Augustin, quand on avait une bonne Ligue 1,
le mérite de
quand on avait une bonne Ligue 1,
Monaco a le droit de perdre ses matchs de temps en temps.
Vas-y, laisse.
Ils font un bon championnat, ils sont second.
Mais c'est pas ça la question. Quand on a une bonne Ligue 1, quand on a une bonne Ligue 1, normalement le deuxième ne perd pas face au 8e.
Bon, le postulat de départ, c'est qu'on n'a pas une bonne Ligue 1. Donc,
je suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, sur cette saison, je vais dire un truc un peu fou. La Ligue 1 est le championnat le plus divertissant cette saison-là.
Il y a beaucoup de buts.
Franchement, la dernière journée là, ça c'est jamais arrivé dans l'histoire de la Ligue 1.
Tout le monde a marqué.
Tout le monde a marqué. Toutes les équipes ont marqué. Et je tiens quand même à vous dire que le Brest-Rennes qui s'est fini en 5-4, c'est de la folie aussi. Il y a certains championnats où le vainqueur est décidé depuis très longtemps. Il y a que Leverkusen qui propose en Bundesliga quelque chose de surprenant. Manchester City va finir champion d'Angleterre comme c'est quand même en 8 saisons, c'est la 6e fois qu'ils sont champions. Ce qui du coup en fait gâche toute la surprise. Mais Arsenal, mais les gars, on oublie juste que Manchester City a deux matchs de retard par rapport à Arsenal et les derniers matchs de City, c'est de l'eau. Ils vont bouffer tout le monde et ils vont reprendre la première ligue. Faut pas oublier. Et pour moi, tu dis ouais, le deuxième est censé gagner.
Non,
pour moi la Ligue 1 et un championnat de foot de base, c'est quand il y a des trucs surprenants. Le dernier peut battre. Quand même, c'est le meilleur championnat en France, on est d'accord. C'est l'élite du football français. Si tu fais partie de l'élite, tu peux battre un mec qui est dans l'élite aussi.
Mais attends,
le football est une science assez simple. D'un côté, on a des choses, je dirais, au niveau data, des gens qui courent vite, qui ceci, qui cela. Et de l'autre côté, il y a de l'irrationnel. Il y a de l'humain. Il y a de la foi. Il y a du génie. Il y a de la folie. Et ça, personne ne le commande. Personne ne le sait. Et je trouve que dans le championnat français, on a effectivement peut-être un défi. On a peut-être un déficit, technique ou en termes de valeur absolue de joueur. Par contre, on n'a pas de déficit en termes d'irrationalité. Et comme tu viens de le dire, on a un championnat, je trouve, qui est extraordinaire. Et là, dans le finish, ça emballe vraiment tout le monde. Et ça emballe même dans beaucoup de pays à l'étranger.
Mais au-delà du finish, tout le monde est jaloux de la Ligue 1. Je vais t'expliquer pourquoi.
Tout le monde est jaloux.
En fait, on a combien de représentants en Europe?
On a fait son marché dans la Ligue 1.
On a Marseille en demi-finale.
Laisse-le terminer.
Déjà, exactement, Augustin. On a les meilleurs centres de formation. On a Marseille en demi-finale de Ligue Europa, le Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions. Déjà, la Ligue 1 est présente sur la scène et la Première Ligue, ils sont où d'ailleurs? Parce que rappelez-moi, Liverpool, ils sont encore en demi de Ligue Europa, non? Et le grand Manchester City qui va finir champion, ils sont en demi-finale de Ligue des Champions? Pas du tout. Après, tu vas me dire, ils ont croisé le Real sur leur chemin. Mais faut pas oublier que le stade de Reims dans les années 50, ils avaient mis une raclée aussi. Mec, il me lâche tout, trop nostalgique.
Je suis chauvin.
Regarde les petites équipes de Ligue 1 se battre en bas de tableau. Je suis désolé, c'est encore plus divertissant que se dire ok, je vais regarder le 29e titre.
Mais quand tu vois le Havre contre Paris, regarde le Havre. Paris nous donne du jeu, il nous donne de l'émotion.
Merci Augustin. On a au 01 53 48 3000, c'est Adnan qui est avec nous. Bonsoir Adnan, comment ça va?
Hello
Adnan.
Allô.
Oui, on vous écoute Adnan.
Bonsoir. J'écoute votre débat avec attention, et j'aimerais mettre un petit bémol justement par rapport à ce que vous dites, notamment du match de Lyon hier, où il y a eu un fait de jeu qui était vraiment pour moi gravissime. C'est le fameux hors-jeu qui a été signalé, qui donnait 3-2 à Monaco, et je pense que derrière c'est pas du tout le même match.
Il est toujours là.
Et justement revenir. Oui, vous m'entendez?
Ouais.
Ah, excusez-moi. Donc je disais, je sais pas si vous m'avez entendu. Je mettais un petit bémol à ce que vous disiez tout à l'heure, notamment par rapport au match de Monaco hier, et notamment par rapport à ce jeu où Monaco menait 3-2, mais pour un hors-jeu de 2 cm et encore, on ne le voit pas, derrière ça peut mener 3-2, mais c'est pour vous dire que vous parlez du championnat de France, etc., qui était irrationnel, qui était le foot en folie. Il y a aussi un problème de VAR, un problème d'arbitrage, qui fait qu'effectivement, tout le monde peut battre tout le monde. Parce qu'on a des arbitres qui ne sont pas encore à la hauteur, justement, des championnats de nos confrères européens.
Quand tout le monde bat tout le monde, Adnan, c'est bien le symbole d'une ligue qui va mal.
Absolument pas. Jamais de la vie.
Football total.
Il y a des locomotives.
Il a un doctorat en nuance.
Ah bah oui. C'était pas Monsieur Nuance en France. Ne donne pas des leçons de nuance.
Mais non.
Tous les championnats,
il a le gris, il a pas la nuance.
Dans tous les bons championnats, il y a des locomotives. En France, mis à part le PSG, c'est le néant. Tout le monde peut gagner.
Ça veut dire que le foot, c'est une science exacte. Alors qu'il y a
pas de surprise. Tout le monde voit bien la médiocrité de cette ligue.
Alors, si on en est arrivé à parler de l'arbitrage et autres, c'est justement parce que les équipes se tiennent et on s'accroche à des détails.
Non,
mais oui, tiens, c'est le leur jeu à un centimètre, heureusement qu'il y a la vidéo ou je ne sais quoi. La réalité, elle est là, c'est que c'est disputé et on s'accroche à la moindre petite erreur.
Je suis totalement d'accord avec toi. La défaite. Mais Jouba, je suis obligé de te répondre et de manière un peu véhémente. Ah bah, je me sens un peu comme Caligula là.
Laisse-moi dire un truc.
Là, t'as Jérôme qui est la locomotive de la Liga. Ouais. Ça fait 3 semaines que tout le monde en première ligue se plaint des décisions arbitrales de Manchester City, en faveur de Manchester City.
Exact.
Faut pas dire que les décisions arbitrales hasardeuses ou la mauvaise utilisation de la VAR, c'est quelque chose d'endémique à la Ligue 1. Parce que franchement, on tire sur l'ambulance, on dit franchement, notre championnat, il pue la merde, on est trop nul, personne ne nous regarde. Non! Les gens nous regardent et c'est pour ça que les gens sont jaloux. Sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, tout le monde insulte la Ligue 1 de Farmers League, de Ligue des fermiers. Ouais. Mais aujourd'hui, les deux fermiers, il y en a un en Ligue Europa qui va un peu, qui va pas vendanger et qui va se taper une équipe de Bergam qui est pas folle en ce moment est à Paris qui a beaucoup de chances de finir en finale.
Ah, justement,
faut arrêter de descendre le football français, les gars.
Allez, on a Samir. Enfin, Samir qui nous écoute.
Hein,
alors Augustin, on a Samir, hein, notre consultant Samir. Qui nous écoute. Un petit clin d'œil à Samir qui nous dit, eh ben oui, il est d'accord avec Jouba à mon avis. C'était nul à chier toute la saison, hein. Voilà. Ah. La Ligue 1 est un championnat. Jouba, tu me laisses. Augustin, tu me laisses terminer quand même. Ben attends, tout de même, c'était nul toute la saison. La Ligue 1 est un championnat difficile, oui, mais du spectacle, on en a que dans le finish. On en voulait beaucoup plus tôt. Toutes les grosses écuries ont déçu. La seule intrigue, et je m'adresse à toi, Moha, c'est le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Vivement, la saison prochaine pour cette fameuse Ligue 1, Greg.
D'accord. Ouais. Bah, je me pose déjà la question de ce qu'on appelle les grosses écuries. En France, on n'en a qu'une, c'est le PSG. Le reste, c'est des clubs qui se battent avec les moyens qu'ils ont. On parle tout à l'heure de Monaco, on parle de Lyon, on parle de Lille, on peut parler de tout le monde. On s'aperçoit qu'ils font l'ascenseur régulièrement. Ça ne les empêche pas, quand tu regardes dans le temps sur 5-6 ans, vas-y. Comme a dit Moha, Marseille, sur les 10 dernières saisons, ils sont 5 fois vice-champions. Quoi. Voilà,
Les gens le voient
tout le temps.
Et tu le vois comme ça.
De la Coupe de l'UEFA.
C'est le syndrome, galactique en fait, où c'est des personnes qui ne regardent le football qu'à travers le prisme de la Ligue des Champions et qui pensent que le football doit être parfait avec 47 buts par match. Mais non, comment Bilal, s'il te plaît, explique-moi comment tu peux avoir de l'enjeu à la première journée du championnat. Tu sais pas ce qui va se passer.
Ils sont même pas rodés. Tiers du championnat, beaucoup d'équipes se rôdent.
Alors, qui aurait pensé que Brest aurait été deuxième?
Mais qui aurait pensé que Lyon serait au bord du gouffre au début du championnat? Personne.
Je suis désolé, vous avez une mémoire de poisson rouge.
Allez, poisson rouge. En tout cas, Samir, réponse à toi, Juba.
Soporifique, quand même.
Vas-y, soporifique.
Tout au long. Oui, j'utilise des mots français.
Mais bien sûr. Arrête de taquiner Augustin, Juba.
Soporifique. Et donc, on s'est emmerdé. Et là, c'est pas parce que sur deux dernières journées,
on a des amoureux en plus là.
Moi, je pense que il faut quand même voir les choses en face. Le monde le dit. Les matchs de Ligue 1,
on compte sur toi pour voir les choses en face. En fait.
C'est la catastrophe.
Et je pense que t'es limité à l'utilisation du mot catastrophe.
Mais non. Justement, tu peux pas dire ça.
Bon, faut regarder aussi les autres. Tu regardes en Italie. Moi je suis le championnat italien, ils ont aussi plein de matchs
bof.
Tu regardes l'Allemagne, ils ont aussi plein de matchs bof. L'Angleterre, il y a aussi des matchs bof. Le Portugal, dans tous les pays, tu peux pas avoir sur une saison 100%. Tu demandes quoi? D'avoir 60 matchs avec les 20 équipes qui sont au top. C'est pas possible. Parce que les enjeux, c'est pas les mêmes. Parce que les difficultés sont pas les mêmes. Parce que les clubs ont des trous. Il y a plein de choses qui
vont être.
Mais Jouba, tu peux pas répondre à Grégory avec l'exemple de Leverkusen parce qu'on est en Ligue 1. Non, mais la Bundesliga, ça fait 12 ans. Ça fait juste 12 ans. Ça fait 12 ans qu'il y a l'hégémonie du Bayern sur la Bundesliga. En Ligue 1, t'as Lille qui prend le championnat et Monaco qui prend le championnat. Et dis-toi, au début de l'ère qatarienne, c'est Montpellier qui prend le championnat.
C'est vrai.
Mais est-ce que c'est arrivé en Bundesliga, ça? Non. Sur les 8 dernières saisons, c'est arrivé uniquement avec deux gros en Angleterre. T'as Liverpool qui le prend une seule fois et City qui le prennent 7 fois. Donc on peut pas dire, non, c'est que la Ligue 1.
On a des réactions encore, hein, sur les réseaux sociaux. Oui, vas-y, Jouba. Non, parce que là, on en a une belle.
Il y a quand même quelque chose, les gars. C'est que tous les championnats ont des gros clubs, des clubs qui ont quand même survolé ou du moins démontré qu'ils étaient des clubs de haut tableau. Et en France, on n'a pas de clubs de haut tableau.
On a de la grosse fiscalité en France.
À part le PSG. On a PSG, Monaco qui arrive souvent aussi dans les trois premiers. Marseille aussi, quoi que t'en dises, même si tu penses qu'ils sont,
Lyon,
je cite l'auteur, catastrophique.
Ah ben allez.
Mais il y a une chose que Jouba il oublie, c'est que la France n'est pas un pays du football.
Oh,
c'est un pays du football très 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 récent, contrairement aux Anglais.
Fondateur, quoi.
Les Français se réveillent au football avec l'ère Platini 84 quand on est champion d'Europe.
Ouais.
Et puis on se révèle vraiment avec la période 98. Donc on est un jeune pays dans le monde du football. Le monde entrepreneuriat.
C'est
assez limité en termes d'investissement quand tu compares aux Anglais, quand tu compares aux Allemands.
Bien sûr.
Donc voilà, quand tu mets tout ça bout à bout, il y a une certaine cohérence et logique. Où est la place du football français dans l'espace, dans l'espace européen et dans le Big Five?
Greg, on a Farid qui nous interpelle avant de terminer sur ce débat concernant l'Olympique Lyonnais. Hier, la VAR a montré l'image avec la ligne d'analyse du hors-jeu. Ben Yedder dépassé légèrement. On fait quoi alors? C'est la question que nous pose Farid. Ou c'est encore un arbitre pro OL, faut arrêter. Donc Jouba, c'était un super match et Fofana, il faudra bien retenir ce nom. Le petit est là, attention. Allez, qui veut répondre à Farid?
Vas-y Moha. Le truc, c'est que on enlève la VAR. La VAR n'a jamais été promise comme étant une solution miracle déjà à toutes les erreurs d'arbitrage. C'est un appui uniquement. Et aujourd'hui, je suis désolé de l'apprendre à certains, c'est pas parce que c'est un ordinateur ou un logiciel que ça ne fait pas d'erreur forcément. Dites-vous que les erreurs d'arbitrage étaient beaucoup plus nombreuses avant la VAR. Aujourd'hui, elles sont réduites. Néanmoins, ce qui peut permettre à ce monde-là de s'améliorer légèrement, je pense que ce serait ajouter des micros aux arbitres pour comprendre
comme au rugby.
Pour comprendre un peu plus les décisions arbitrales. Aujourd'hui, on a eu un scandale au début du championnat, il y a quelques temps, sur le fait qu'il y avait une espèce de clique du corps arbitral qui essayait de cacher, de camoufler certaines erreurs. Aujourd'hui, je prends l'exemple d'un championnat, comme l'a dit Grégory, avec un peu plus d'expérience en Première Ligue. À chaque décision arbitrale, lorsqu'il y a utilisation de la VAR, il y a un audio de la cabine VAR et de la discussion avec tous les arbitres. Et il y a une analyse de toute la décision qui est prise. Quand tu fais ça, en fait, ça rend le truc totalement transparent.
Moi, je rajouterais rapidement, parce que on aimerait avoir Solal aussi.
C'est que l'arbitre, s'il sollicite la VAR et que la VAR le déjuge, il perd des points dans le.
Il y a ça aussi.
Donc ça, je pense qu'il faudrait arrêter ça aussi.
Ça met une pression. On est d'accord. Augustin.
Et pour qu'il fasse bien.
Solal, rapidement, avant la dernière pause.
Alors. Par rapport à ces clubs-là, faut pas confondre tout. Faut pas confondre la Ligue 1 et les clubs de Ligue 1. C'est sûr que quand on entend certaines personnes en parler, dont j'ai l'impression qu'ils regardent pas les matchs ou qu'ils arrivent pas à les voir, c'est que cette Ligue 1-là, faut pas confondre le fait que des équipes fassent pas arriver parce qu'il y a Reims dedans, il y a Lille, etc. Et qu'à côté, rien qu'à Liverpool, ça nous donne des étoiles dans les yeux. Mais je suis désolé, il y a plein d'équipes de Ligue 1 qui peuvent faire très très peur à des équipes de BPL de cette saison. Je parle des équipes de Ligue 1 de cette saison. Faut pas confondre les équipes et l'image qu'on en a, et même l'image aussi géographique. C'est pas parce que les stades aujourd'hui, le prochain qui va monter en Ligue des Champions, il va pas avoir forcément le bon stade, et c'est quelque chose qui notamment va nous toucher à l'intérieur de nous-mêmes. Faut pas confondre tout. La Ligue 1 cette année, moi j'ai regardé des matchs, j'ai vu des personnes qui se sont déplacées, elle était très très bonne en termes d'ambiance aussi. C'est des choses qui comptent. C'est en termes de spectacle, je suis désolé, et ça fait déjà 3 ans qu'elle commence un peu à reprendre.
Le Paris Saint-Germain, merci, Solal, jouera ce mercredi 1er mai, on le rappelle, demi-finale face au Borussia Dortmund. Allez, il y aura aussi Marseille ce jeudi soir, jeudi 2 mai. On va revenir sur le Paris Saint-Germain face au club doyen.
Time Sport revient dans un instant. 20h, 21h, Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM.
Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h et 39 minutes, toujours avec le grand sourire de Moha. Et oui, toujours avec moi, avec Jouba juste en face. Augustin, qui aime bien, ce soir, il aime bien tacler, hein. Ah, c'est tacler à la gorge peut-être. Ou alors Roberto Carlos, va-t-on dire, envers Jouba, non? Ou envers non. Greg aussi, non, qui est toujours là, Greg. Toujours là. Pardon, grand monsieur,
Greg. Je peux juste dire que vas-y. Le sens de la nuance. Ouais. Permet de.
Non, nuance. Oui, il faut être modéré. Il faut être modéré.
Voilà, ouais, c'est ça. C'est toujours modéré d'être nuancé. Parce que c'est tellement facile d'être blanc ou noir en ce moment. Ouais. Que, en gros, il n'y a que ça pour. Il
faut être Michael Jackson, c'est ça que tu dis?
Bah non, bah non. Allez, en tout cas, un clin d'œil à l'équipe de France de judo, excusez-moi, ouais, qui a remporté ce dimanche soir la médaille d'or au championnat d'Europe par équipe mixte du côté de Zagreb en Croatie. Voilà, en battant la Géorgie en finale. Eh ben ça, c'est pas mal pour les JO 2024. Le dernier sujet de cette émission, on y va.
Time Sport. Le duel.
Trois buts partout avant d'accueillir, ben justement avant de se déplacer du côté de Dortmund et son fameux mur jaune, Signal Park. Et oui, dans ce stade assez incroyable, trois buts. C'est vrai qu'on les a pas vus arriver, mais pourtant, ben voilà, le hack est bien là, le hack en mauvaise posture en Ligue 1 Uber Eats. Les hommes de Luis Enrique, ben sont-ils prêts à ce match-là qui, ben on le rappelle, mercredi soir, ben fera, on espère, du Paris Saint-Germain encore un grand club de Europe en demi-finale de cette édition 2023-2024, Grégory.
Bon, déjà le Havre a fait du bon travail et ils ont eu la réussite contre Paris qui leur a échappé pendant de nombreux matchs.
Ouais.
Et ils ont pas eu toute la réussite parce que ça aurait pas été volé qu'ils gagnent ce match-là.
Pas du tout.
Vu le faible niveau d'un ouais. certain nombre de joueurs.
Et à Asensio, une rotation, fait une tête incroyable. Mmh. Enfin, Asensio, je pense qu'il aurait fallu le mettre peut-être plus titulaire cette année.
Ouais.
Plutôt que dans une espèce de rotation.
Il manque aussi sous une régularité aussi. Hein.
Effectivement,
c'est Greg, la fracture au pied, je pense.
Le Havre aurait même pu gagner, mais après, derrière, il y a le jeu robuste parisien qui a pris le. Qui a très bien.
Il y a un homme qui a fait la différence. Alors, Ramos, je l'ai trouvé.
Merci,
Grégory.
Merci, enfin.
Extraordinaire. Un vrai numéro 9, comme Paris en a besoin. Oui. La pointe que Paris a vraiment besoin.
Oui, monsieur.
Quelqu'un qui sait jouer de la tête, qui sait jouer en pivot, qui sait être présent dans la surface.
On a besoin.
Paris a besoin de quelqu'un comme ça, je pense. Du coup, ça relance l'autre débat. Qui mettre en pointe?
Allez, vas-y, Jouba, peut-être pour répondre.
Ramos est un joueur exceptionnel. Parce qu'on a besoin de lui et le problème de ce jeune joueur qui a été débauché l'été dernier, c'est que il a la concurrence et pas des moindres de Kylian Mbappé. C'est-à-dire que on a une légende quasiment du football mondial qui est Kylian Mbappé, qui a eu des périodes de creux, qui a peut-être souffert, même s'il est il a quand même énormément marqué, mais bon, qu'on attendait beaucoup plus, je pense, du côté du supporter beaucoup plus. Mais Ramos a toujours été là quand il fallait. Il a et c'est vrai qu'il a instauré une espèce de concurrence un peu profonde avec Kylian Mbappé, qui mettre, c'est vrai, et Luis Enrique a eu à gérer et doit gérer
dans
ça parce que il est exceptionnel, ce mec.
Dans
il est
comme moderne quand t'as des excentrés extrêmement rapides.
Mais il y a des statuts, Grégory, c'est
faut,
ça. Le
il
truc.
Te faut quelqu'un en systématiquement. Pointe sur qui tu peux t'appuyer. C'est systématique. Donc du coup, c'est pas la place de Kylian.
C'est systématiquement.
Voilà.
C'est
Randall, il a pas le rendement nécessaire non plus. Donc par élimination, il reste Ramos. Et la vraie concurrence, en fait, c'est qui on va mettre sur les côtés pour l'accompagner.
Mais le souci, il est tactique, en fait, Augustin, désolé. En fait, le problème que tu as avec ces situations-là, faut l'avoir un peu d'un œil tactique. Quand tu mets Kylian Mbappé au poste de numéro 9, c'est uniquement pour une seule raison. Quand tu le mets entre ces deux axios, il n'a pas besoin de faire autant de replis défensifs que lorsqu'il est sur les côtés. Quand tu l'as dit toi-même, Grégory, quand tu as cet ailier-là, en équipe de France, Kylian Mbappé, il a le point d'appui, sûrement l'un des meilleurs des 10 dernières années,
libre,
en la personne d'Olivier Giroud.
Exact.
À chaque fois, il s'est appuyé sur Giroud pour faire son jeu, hein, n'en déplaise aux détracteurs qui disaient qu'il jouait plus avec Griezmann ou avec Benzema. Il s'est systématiquement appuyé sur lui pour faire son jeu, parce que c'est quelque chose qui, en fait, les points d'appui permettent de libérer beaucoup d'espace pour les ailiers extrêmement rapides. Ce que tu ne peux pas te permettre en Ligue des Champions, pourquoi lorsque le FC Barcelone, on a aligné une attaque Barcola, Mbappé, Dembélé, parce que tu avais besoin que tes deux ailiers en fait fassent le repli défensif.
Clairement.
Et tu pouvais laisser Kylian Mbappé vaquer à ses occupations devant tout seul. Mais le problème avec Ramos, c'est que c'est impressionnant en fait de se dire qu'il est à 11 buts, il a 12 buts je crois.
14
cette saison, et il a le même volume horaire de jeu que Randal Kolo Muani, et il a quand même 700 minutes en moins que Ben Yedder qui est au même nombre de buts. Donc déjà ça en dit long. La déviation de la tête qu'il fait sur le troisième but,
elle est extraordinaire.
Elle est extraordinaire. Trop dure à placer. Et d'ailleurs, j'aimerais quand même pointer du doigt le centre de Kangin Lee, qui est décrié ces derniers temps. Mais le centre de Kangin Lee est parfait.
Petits oignons.
Et il faut dire le nul, le jeu de mots dans l'annonce de ce qui se passe, je le comprends.
Bien sûr.
Mais le Paris Saint-Germain a fait quelque chose qu'on n'imaginait pas Paris faire depuis quelques temps. C'est revenir au score. Cette mentalité de la gagne et du retour. Et c'est pas la première fois qu'on voit ça du côté de Paris. Mais de l'autre côté, en Ligue des Champions, le Borussia Dortmund, ils étaient pas nuls. Ils se sont fait éclater par Leipzig. C'est pas du même niveau que
après c'est 4-1.
Attention.
La performance du PSG, elle est quand même à relativiser. C'est le Havre, le promu, faut quand même pas s'extaser de la victoire contre le Havre, quoi.
C'est un nul,
c'est le Havre. Moi, ce que je trouve regrettable, c'est de prendre 3 buts, Grégory. Ouais. C'est une catastrophe.
Tu peux pas résumer une équipe sur une saison.
Bien sûr.
On regarde le match. Ce soir-là, contre le Paris Saint-Germain, on a un top Havre.
Bien sûr, c'est une top équipe à ce moment-là. Il joue bien parce qu'il crée des difficultés à Paris.
À Paris, le problème, c'est qu'il est derrière, il n'y a pas eu le répondant nécessaire. Défensivement, on en parlait, c'était catastrophique.
Merci.
Comme d'habitude. Ouais. Mais moi, ce qui m'a plu et ce qui me plaît de plus en plus à Paris, c'est qu'on commence à voir d'autres joueurs émerger et qui font la différence.
Et c'est pour ça que
là, on a Ramos entre les stacks. Ça fait vraiment plaisir.
Moi, je suis pas du tout content.
Je pense qu'il y a certains supporters parisiens qui doutent de l'après Mbappé, mais je pense que l'après Mbappé est dans les mains de Asensio, Ramos,
qui sera meilleur.
Barcola qui va encore
Paris
monter dans
meilleur.
La parce que n'oublions pas,
Barcola aussi qui fait
une très très bonne année. Donc je pense qu'il faut rassurer l'après Mbappé. C'est vrai que d'un point de vue marketing, image, Mbappé c'est bien. Mais derrière, la relève, elle est assurée et je pense qu'elle sera même renforcée et même au-delà de ça. Mais
ce qui a fait aussi que ces joueurs-là s'épanouissent offensivement, c'est évidemment la concurrence qui est largement plus accrue qu'à l'époque où t'avais Neymar, Messi qui bougeait jamais, Mbappé qui bougeait jamais. Là, t'as vraiment tout le monde veut prendre sa place, que ce soit Barcola, Kolo Muani, avec beaucoup de crédit, il s'est fait un peu manger. Mais au final, c'est cette concurrence-là offensive qui a fait que le PSG s'est bonifié aussi. Quoi.
Cette concurrence, elle a porté par qui ? C'est Grégory, tu le disais, tu te souviens il y a quelques temps que Luis Enrique était le meilleur entraîneur pour l'après Mbappé.
Exact.
Pour moi, dans la gestion, c'est la meilleure recrue de Paris cet été finalement. Parce que là, tu as une émergence de jeunes joueurs, de ces dernières années, bien évidemment. L'émergence de ces jeunes joueurs, quand tu vois le galon qu'ils prennent au fur et à mesure, je me souviens, pour taire le nom de certains journalistes qui étaient tombés sur Barcola face à Newcastle, aujourd'hui, c'est l'homme du match face au FC Barcelone.
Il est tout le temps là.
C'est le meilleur dribbleur de
cette saison. C'est le meilleur dribbleur quoi, en fait.
Mais c'est de l'analyse facile qu'on fait.
C'est l'intention.
L'analyse, mais oui, il y a beaucoup de gens. Comme d'habitude.
Alors, on donne la parole à notre réalisateur sur la. Vas-y, on t'écoute.
Il y a un truc que c'est que je remarque avec ce PSG-là, et je suis sûr que vous partagez mon avis, c'est que ce PSG-là a le désir d'être le main event, en fait. Et très, très souvent, sur des affiches, surtout de Ligue des Champions, le PSG se croit comme l'affiche. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est que s'ils sont l'affiche, et j'aimerais finir, je vois, c'est surtout parce qu'il y a Kylian Mbappé. Et en fait, cette confiance-là, c'est pas une équipe de main event. Les équipes de main event, c'est le Real, c'est City, c'est le Bayern qui ont la tête sur les épaules quand il s'agit de commencer un match. Ce que ne fait pas le PSG en Ligue des Champions, et c'est pour ça qu'ils prennent très rapidement des en début de match. En fait, le truc, c'est je pense qu'ils confondent aussi une certaine forme de confiance qu'ils ont engrangée grâce à Mbappé. Ils se disent bon, c'est bon, on commence le match avec Mbappé, on est l'équipe imbattable. Et en fait, pour moi, ça va être un énorme piège. Et alors, j'espère que là, pour cette affiche de Ligue des Champions,
demi-finale aller.
En attaque, on aura non pas un Mbappé qui va être le point central, mais un Lee Kang-in, Ramos, Barcola, Ousmane Dembélé qui commence le match et que ce PSG-là se trouve fort dépourvu de se dire ah ouais, non, mais là, on est obligé de devoir prouver parce qu'on n'est pas cette équipe de management.
Le grand problème du PSG, ça va être le suivant, c'est qu'ils sont tombés sur le côté facile. Et quand ils vont arriver dans la finale, ils vont vraiment rentrer dans le dur. Et là, ça va être une autre réalité pour eux. Parce que de l'autre côté, les gens qui vont passer, je pense que ça sera le Real.
facile face à Dortmund.
Ça fait un moment qu'ils sont dedans.
La Malik qui nous pose une simple question. Facile face à Dortmund ?
Bah non.
Facile, Jouba, il dit non.
Non, non, il devrait passer sous. Rappelons quand même qu'il devrait passer sous.
Sauf s'il y a vraiment un fait de match, comme il y a eu contre Barcelone.
Attention,
entre le carton et la pénalité, c'est tout.
Lors de leur dernière confrontation, en l'occurrence, c'était en 2020, le Paris Saint-Germain, avec cette mentalité-là que vous définissez, les gars, c'est facile, c'est facile, s'est fait cueillir au match aller. Et parce qu'ils ont eu une réaction d'orgueil.
J'ai dit qu'ils ont eu le côté facile.
Donc, il faut faire attention parce que quand on arrive toujours et toujours.
Barcelone Dortmund, c'est pas le groupe à Real et à City et au Bayern.
Quand tu arrives avec cette mentalité-là, ça peut être facile, ça va être facile. Et ben c'est là que le PSG se casse la gueule. Et c'est tout le temps la même chose. Et le match du Havre n'est en aucun cas une référence. Et je vais réutiliser un mot que j'aime bien.
Allez,
si on doit s'appuyer sur ce match du Havre pour essayer de construire une dynamique face à Dortmund, ça va être catastrophique.
Catastrophique. Voilà. Ça c'est le mot de Juba.
Bien sûr,
pas au match aller. Au match retour.
Attendez, je t'ai pas prêt. Clairement, on fait match nul contre Paris. Ça les a pas empêchés de gagner contre le Barcelone.
Augustin, vas-y.
Si je peux répondre à Jouba.
Vas-y, tout le monde répond à Jouba ce soir, c'est bien.
Il faut là, parce que là, déjà, leur dernière confrontation, Jouba, c'était pas en 2020, c'était en décembre.
Oui, c'est vrai.
Oui,
c'est
déjà.
Il y a pas longtemps.
Et c'était pas avec cette mentalité-là. Déjà, à niveau chronologie, on est pas bon.
On parle en termes de phase finale, c'est bon.
Pas de souci, en termes de phase finale,
c'est compris.
Le dernier match de Paris face à Dortmund, c'était presque un match de phase finale parce que la qualification de Paris en dépendait.
Ouais, mais c'est pas.
Et ça les a pas empêchés d'aller faire un match clutch face au mur jaune quand Dortmund était au paroxysme de sa confiance et d'aller quand même prendre le match nul là-bas, ce qui est très difficile à faire. Ouais, de l'autre côté, dire c'est facile, c'est pas facile, c'est non. Ouais. On est des journalistes, on est pragmatiques, on analyse la tactique. En quoi ça peut être facile pour le Paris Saint-Germain?
Alors, justement.
La défense extrêmement lente du Borussia Dortmund.
Ouais.
Mats Hummels, 135 ans. Niklas Süle,
135 ans.
Et Niklas Süle, il fait 3 fois mon poids pour dire que c'est chaud. Au-delà de tout ça, faut pas oublier que Madsen, le latéral, est blessé, n'a pas participé à la moitié de l'entraînement aujourd'hui. Daniel Malen aussi est incertain. Et Jadon Sancho est la seule certitude. Et Brandt, qui est le meilleur joueur de Dortmund cette saison, est incertain aussi. Avec toutes ces incertitudes.
Alors.
Et quand tu vois le match, on regarde juste pragmatiquement le match de Borussia Dortmund face à l'Atlético. En contre, Dortmund a été clinique. Mais en contre, ça veut dire que tu laisses des espaces monstres. Mmh. Mais l'Atlético Madrid, ils n'avaient pas de flèche devant. C'était Griezmann et Morata.
Ouais.
Tu penses vraiment que dans cette optique de match-là, où Dortmund va laisser des espaces monstrueux dans leur dos, avec des charrettes en guise de défenseurs centraux, tu penses vraiment que la triplette Barcola, Mbappé, Dembélé va pas juste dévorer l'espace durant deux matchs et bouffer Dortmund?
C'est enregistré sur l'antenne de Bord FM. On va voir.
Mais moi, il faut faire attention.
Le football va très vite, Juba.
Moi, à chaque fois qu'on a dit une finale de
Paris, ça sera la finale.
La finale, Paris sera pas prêt. Ouais, c'est ça.
Non,
Paris sera pas prêt.
Alors on donne
déjà. Mais c'est magnifique, hein. Déjà une place en finale.
Mais c'est ça, les gars.
Moi, j'aimerais bien une super coupe d'Europe entre Marseille et le PSG. Les places vont être très
belles.
Ça serait le top. On pourra retrouver, pourquoi pas, d'ici là, Nasser sur la pelouse. Je sais pas où.
Ça va se jouer à Gangzhou, je pense.
Ah, mais t'inquiète pas, on aura des connaissances aussi là-bas. Il y a pas de problème. On en connaît. Mais bien sûr, on en connaît.
On leur passe le bonjour.
Ah ben oui. Ça, peut-être un truc à rajouter avant la fin de cette émission.
Et ben
rapidement.
C'est déjà la fin de l'émission.
Eh ben oui, il y a Vanessa qui arrive. Elle est déjà prête, Vanessa, pour rentrer dans le studio.
Je suis ravi de cette épopée Ligue des Championnesques et de même de Marseille. Je trouve que le football français bashing, comme on entend, comme il se fait aisément partout,
c'est pas ça.
Je trouve qu'il tire son épingle du jeu. Trouve son épingle du jeu, s'il te plaît.
Okay. En Ligue des Champions, t'as ni DNCG, ni LFP, ni FFF qui met des bâtons dans les roues.
Parce que tout le monde
comme
en a
le
besoin
fait
aussi.
En Ligue 1. C'est ça.
Merci, Augustin. Plus pour dire que le football français se porte bien parce que justement, on a la DNCG, on a pas mal de choses que
Merci, Greg. Merci à toi. Mohad, m'avoir accompagné sans oublier Jouba. Ah ben oui, Jouba. On fera un débat concernant la DNCG. Il n'y a pas de problème, Jouba, t'inquiète pas. Il y a la fin de saison qui arrive. Il y a l'Euro 2024 qui arrive. Il y a Vanessa aussi, chère auditrice et auditeur, qui arrive. 21h, 23h. Bye bye.
Retrouvez Timesport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.